Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant. La presse. Au programme, du bois précieux comme la vie. Ce n'est pas pour me vanter. Aller au gym entre deux réunions. Et les chiens cavent. Bonne écoute.
Du bois précieux comme la vie. Un texte de André Laroche, paru le 22 avril 2023 dans La Presse. Une tranche de tronc d'arbre, percée du dessin d'un feuillu, orne le salon d'Élise Laporte et d'André Cormier. Ils ont sculpté cette œuvre dans l'érable qui a tué leur fille Laurie-Ève il y a 10 ans. C'est leur bois précieux. Le soleil traverse cette sculpture pour rappeler la présence lumineuse de leur enfant, qui a perdu la vie dans une violente tempête de vent à Boucherville en juillet 2013. Cette journée-là, Laurie-Ève travaillait comme sauveteuse dans une piscine municipale quand elle a péri, écrasée par une lourde branche d'arbre. Elle venait tout juste de mettre un groupe de jeunes baigneurs à l'abri du vent. Elle est retournée à l'extérieur des vestiaires pour aller chercher une femme et un dernier enfant. C'est à ce moment que la branche est tombée sur elle. Les pompiers ont retrouvé l'enfant gravement blessé, mais vivant, sous son corps, raconte sa mère. Sa mort a provoqué une grande onde de choc, de Boucherville jusqu'en Australie, où elle avait obtenu sa certification de sauveteuse océanique à l'âge de 17 ans. De partout dans le monde, de Sauvetage Australie jusqu'à l'Organisation mondiale du scoutisme, les messages de sympathie ont afflué. Tous ceux qui avaient croisé la route de la jeune femme, à l'école comme à l'étranger, ont salué sa fougue et son pouvoir rassembleur. Laurie-Ève faisait partie de ces gens qui ont une âme qui pétille. Elle était une boule d'énergie, qui vivait pour le présent et rarement pour le futur, se souvient Élise Laporte. Sa mère a longtemps cherché sans succès à harnacher l'ardeur de sa fille. Aujourd'hui, je suis contente qu'elle m'ait tenu tête. Elle a voyagé. Elle a vécu comme elle le voulait. J'en suis heureuse, confie-t-elle. Guérir par l'art. Malgré tous les gestes et les témoignages bienveillants, le deuil reste néanmoins une épreuve difficile à traverser, reconnaît le couple. La peine et la rage ont rongé son quotidien pendant des années. Il n'y avait pas de fautif sur qui déverser sa colère. Il n'y a rien de plus intangible que le vent, souligne Madame Laporte, enseignante du préscolaire à la retraite, qui a finalement trouvé un réconfort dans l'art-thérapie. Son apaisement a convaincu son conjoint d'explorer cette voie cathartique à son tour. J'ai toujours aimé travailler le bois, mais c'était plus pour la charpenterie-menuiserie. Je me suis inscrit à un cours de sculpture, juste pour essayer, confie André Cormier. J'ai tellement aimé ça que c'est devenu ma thérapie. C'est alors que les astres se sont alignés, poursuit Madame Laporte. Quand nous avons appris que le grand érable argenté qui a tué Laurie-Ève devait être coupé, nous avons demandé à la ville la permission de récupérer tout le bois. Nous l'avons débité en bûches et en planches pour le rapporter chez nous. Je redonne vie à un bois mort qui a donné la mort. Je prends une part laide de cet arbre et j'en fais ressortir sa beauté, nous dit André Cormier. Tout ce bois précieux, comme l'appelle le couple, est soigneusement conservé dans l'atelier. André Cormier en tire le matériau nécessaire pour créer des œuvres, mais aussi des objets utiles au quotidien comme une desserte, des bols ou encore des porte-manteaux. Simplement pour rappeler la présence de Laurie-Ève dans la vie de tous les jours. Beauté brute. À l'image de sa fille, les œuvres d'André Cormier conservent les parfaites imperfections du bois. Une part des nœuds, des taches de maladie et des blessures de son écorce est conservée pour respecter le passé de l'arbre. « La vie est encore dans le bois », dit sa conjointe en caressant un petit bol verni ornementé de marques laissées par les insectes. « Je laisse le bois s'exprimer », dit le sculpteur et ancien éducateur avec simplicité. « J'ai une idée de ce que je veux faire, mais je vais laisser le bois me dicter ce qu'il veut devenir. » Et en même temps, il rappelle la nature de l'Orièvre à ma mémoire. Cela m'a permis de m'en sortir. Ces œuvres de bois précieux, elles, sont offertes avec parcimonie à des personnes significatives autour d'eux. Les gens sont ébranlés chaque fois. Mais je prends soin de leur expliquer que, pour continuer de faire vivre l'Orièvre, ma façon est d'en parler ouvertement. On n'a jamais voulu que sa mort soit un sujet tabou, souligne le père, les yeux un peu rougis. Peu à peu, le bois précieux des parents de l'Orièvre voyage et trouve sa place. Une pièce sculptée par son père sera ainsi intégrée dans une prochaine œuvre de l'artiste céramiste Ève-Marie Laliberté, cousine de sa mère. La création sera exposée à l'été au musée du Haut-Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une autre tranche du tronc d'arbre, qui encadre la photo de la sauveteuse, est accrochée à l'entrée du nouveau complexe aquatique de Boucherville, baptisé l'Orièvre Cormier. Au fil du temps, la mère et le père ont fait la paix avec Éole, qui symbolise désormais le tempérament passionné de leur fille. Quand un coup de vent ouvre la porte, on s'exclame « Te voilà enfin ! Où étais-tu passé » raconte-t-il en riant. C'était « Du bois précieux comme la vie », un texte de André Laroche paru le 22 avril 2023 dans La Presse. Ce n'est pas pour me vanter. Un texte de Marc Cassivi, paru le 22 avril 2023 dans La Presse. Il portait fièrement une coupe Longueuil, une moustache fournie et un coupe-vent en tissu parachute au motif fluo, cintré par un sac banane assorti. Disons qu'il ne passait pas inaperçu. Je l'ai remarqué à travers la vitrine de la quincaillerie de mon quartier, un jeune homme qui semblait tout droit sorti d'une pub de Kiwi en 1984. Ça aurait presque pu être fiston, la coupe mulet et la moustache en moins. Sa garde-robe ressemble à la mienne au début des années 1980, comme bien des jeunes de son âge qui achètent leurs vêtements dans des friperies, chez Renaissance ou au Village des Valeurs. La mode rétro est tenace. Le coton ouaté a toujours la cote. Les chaussures de sport blanches et les jeans taille haute y tout. Manquerait plus que les ados ne provoquent ironiquement le retour des jordaches pot-poche. La chambre de fiston croule sous les vêtements d'occasion. Des t-shirts achetés pour une bouchée de pain, des vestes au rabais, des pantalons vendus pour le dixième du prix initial. Je veux bien que le fait de recycler les vêtements soit écologique, grâce à l'économie en eau, en énergie et en transport, mais est-ce qu'on contribue à sauver la planète lorsqu'on paie 10 $ pour un chandail qu'on ne porte pratiquement jamais parce qu'il y en a 20 autres dans sa commode? Je me posais cette question en lisant l'excellent dossier de ma collègue Valérie Simard qui a relevé le défi de n'acheter aucun nouveau vêtement pour elle et son fils pendant un an. Ce n'est pas pour me vanter, mais pendant les deux premières années de la pandémie, je n'ai pas acheté le moindre vêtement moi non plus. J'ai même porté un nombre très limité de vêtements. un pantalon de jogging, deux jeans en alternance pour les rares sorties de la maison, un T-shirt noir et un kangourou gris, toujours le même, qui sera associé pour toujours à la COVID-19. Je n'ai pas grand mérite. J'achète rarement des vêtements, sinon lorsque je suis en voyage et je n'ai pas voyagé pendant 2 ans. Relever ce défi était autrement plus simple au plus fort de la pandémie, alors que nous étions plus ou moins confinés que depuis 1 an, comme l'a fait Valérie. J'oserais aussi dire que, règle générale et pour toutes sortes de raisons qui relèvent tant de la pression sociale que de l'image de la femme véhiculée dans la publicité et les médias, c'est moins un défi pour un homme. Je n'ai pas souffert de ne pas avoir acheté de nouveaux vêtements pendant 2 ans. Je ne me suis jamais demandé si mes collègues ou mes amis avaient remarqué que je portais la même chemise ou le même T-shirt que l'avant-veille. Mon placard est rempli de chemises, de T-shirts et de jeans qui sont identiques, de la même couleur, de la même taille, de la même marque. De toute façon, mes collègues ont d'autres chats à fouetter. 2 d'entre eux ont porté les mêmes chandails et T-shirts gris au bureau pendant 1 mois dans le cadre d'un reportage en 2016 sans que quiconque s'en rende compte. Peut-être que l'on surestime l'attention que porte notre entourage à notre habillement. Une réflexion s'impose avec le retour à la normale des derniers mois qui nous encourage à rattraper le rythme de consommation de l'avant-pandémie. Nos résolutions collectives de simplicité volontaire semblent soudainement avoir pris le bord, comme nos promesses annuelles de fréquenter une salle de sport après le mois de mars. Je comprends la lassitude et, pour certains, carrément la déprime de toujours être habillé de la même façon. Même moi, qui suis loin d'être une carte de mode, je ne peux plus voir mon kangourou gris pandémique en peinture. J'ai eu des envies de le brûler dans un feu de joie afin de conjurer les mauvais souvenirs de la COVID-19. Je suis loin d'être un acheteur compulsif, mais je ne suis pas insensible à une bonne affaire. Me suis-je déjà targué d'avoir trouvé ce veston de velours côtelé gris-vert chatoyant en solde à seulement 15 $? Au moins 100 fois, diraient mes garçons. Je dois tout de même me rendre à l'évidence. Je possède beaucoup trop de vêtements que je ne porte plus. Ils s'accumulent dans mon placard depuis des années. Des chemises au col élimé, des pantalons devenus trop serrés, des chandails dont j'avais oublié l'existence. J'ai beau savoir qu'en principe on peut porter des jeans pendant 2 semaines sans les laver, j'en possède plus que jamais. Une tache de sauce à spag est si vite arrivée. Il fut un temps où je n'achetais de nouveaux souliers que lorsque j'avais usé ceux que je portais à la corde. Désormais, mes nombreuses chaussures de sport encombrent l'entrée de la maison presque autant que celles de fiston. Tu t'es encore acheté des souliers de course avec une couleur magnifique, a-t-il ironisé lorsque je suis revenu de New York à Pâques. Ils sont oranges, tirant sur le fluo. Mais je les ai eus à un prix imbattable. C'était, ce n'est pas pour me vanter, un texte de Marc Cassivi paru le 22 avril 2023 dans La Presse. Aller au gym entre 2 réunions. Un texte de Christian Vanasse, paru le 22 avril 2023 dans La Presse. Des commerçants se réjouissent de l'afflux de clientèle en semaine attribuable au télétravail. Entre 2 réunions, certains travailleurs passent au gym s'entraîner. D'autres rédigent un rapport pendant qu'on leur fait une pédicure. La souplesse des horaires générés par le télétravail a engendré des périodes d'achalandage durant la semaine au beau milieu de la journée dans bon nombre de gyms et autres salons de beauté. Du jamais vu avant la pandémie. et cette nouvelle réalité qui permet d'équilibrer les heures de pointe a un effet bénéfique sur le chiffre d'affaires, affirment des entrepreneurs interrogés par la presse. Consacrer du temps à son bien-être n'est de toute évidence plus une activité inscrite exclusivement à l'horaire de fin de journée ou à celle du week-end. Beaucoup de propriétaires de gym peuvent en témoigner. On est rendu une destination pour relaxer au milieu de la journée, affirme Gabriel Hardy, directeur général du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique, CCICP. Également propriétaire du gym Le Chalet à Québec, M. Hardy note que, sur semaine, ses cours en groupe de 10h, 11h et midi sont maintenant pleins. Alors que les salles situées au centre-ville accueillent beaucoup moins de clientèle d'affaires, celles des banlieues et des régions sont davantage fréquentées durant la journée qu'avant. Les gens vont aller s'entraîner au gym situé plus près de leur maison, observe également Karine Larose, directrice des communications et du marketing pour Nautilus Plus, qui compte une trentaine de succursales dans la grande région de Montréal, à Québec et à Gatineau. Résultat, les salles du centre-ville, comme le Nautilus Plus Montréal Trust, sont moins fréquentées qu'avant à l'heure du lunch notamment. Et ce sont les étudiants qui ont remplacé bon nombre de travailleurs sur les vélos stationnaires. Courir sur le tapis roulant ou soulever des poids. Par ailleurs, le matin, le midi et les fins de journée demeurent les principaux moments privilégiés par les adeptes de l'entraînement pour se rendre à la salle la plus près de chez eux. Or, les gens semblent prendre plus de temps qu'avant la pandémie pour courir sur le tapis roulant ou soulever des poids. L'heure du lunch s'est beaucoup étirée, souligne Mme Larose. Et les travailleurs, en fin de journée, arrivent plus tôt vers 15h30 au lieu de 17h. Les consultations virtuelles avec des entraîneurs et des nutritionnistes sont encore populaires, ce qui porte à croire que les gens à la maison sont plus à l'aise pour ce genre d'échange qu'ils ne le seraient s'ils étaient toujours au bureau, croit également Karine Larose. Bon pour les affaires. Et cette flexibilité rime aussi avec rentabilité pour certains salons de beauté. Avant, pendant la journée jusqu'à 16 heures, c'était tranquille, raconte Laura Valentina Caceres, copropriétaire de Primrose, qui se spécialise notamment dans les pédicures et les manucures. Or, l'avènement du télétravail a mis fin à certaines périodes mortes pour cette entreprise située sur le plateau Mont-Royal. Ça a été bénéfique pour le salon. Les gens viennent pendant leur pause ou à l'heure du lunch. Ils apportent leur ordinateur, nous raconte Laura Valentina Caceres, copropriétaire du salon de beauté Primrose. Autre quartier. Même observation. Au centre-ville, Vincent Poirier, copropriétaire du salon de coiffure Suite 105 Parc Glam, reconnaît lui aussi que le télétravail a eu un impact positif sur son entreprise. Ce que l'on remarque, c'est que l'achalandage est plus constant, plus régulier. Avant, on était plus occupé vers la fin de la semaine. Maintenant, on est plus occupé le mardi. Les gens nous le disent qu'ils viennent entre deux réunions. Permettre une flexibilité d'horaire à ses employés, ça crée une loyauté envers l'entreprise, explique Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Bien que le salon soit situé au centre-ville, M. Poirier attire toujours autant de clients. Il compte sur un noyau dur d'habitués qui sont prêts à parcourir de plus longues distances pour s'asseoir sur sa chaise. Et maintenant, raconte-t-il, les clients sont également plus flexibles pour les heures de rendez-vous et acceptent plus aisément de se pointer au salon à la dernière minute lorsqu'on les appelle pour leur offrir une place à la suite d'une annulation. Plus de souplesse, plus d'efficacité. Si ces changements dans l'aménagement des horaires de travail sont positifs pour les entreprises qui font face à une meilleure répartition de la clientèle, la possibilité d'aller chez le coiffeur en début d'après-midi le mardi ou de suivre un cours de Zumba le jeudi à 10 heures est également bénéfique pour les employeurs, soutient Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Permettre une flexibilité d'horaire à ses employés, ça crée une loyauté envers l'entreprise. Selon elle, Il est faux de penser qu'un travailleur qui prend une heure pour aller se faire couper les cheveux en plein jour est moins efficace. Il va faire tout ce qu'il a à faire et même plus. Madame Poirier rappelle qu'en contexte de pénurie de main-d'œuvre, la flexibilité de l'horaire est synonyme d'attractivité. La pénurie de main-d'œuvre est là pour rester. Il faut embrasser ce genre de pratique, selon Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Et ce n'est pas un laisser-aller complet, insiste-t-elle. La plupart des organisations demandent aux gens d'être disponibles à certaines heures. À un moment donné, il faut aussi de la cohésion. C'était « Aller au gym entre deux réunions », un texte de Christian Vanasse paru le 22 avril 2023 dans La Presse. Les chiens cavent. Un texte de Christian Vanasse paru le 22 avril 2023 dans La Presse. Quand l'itinéraire m'a informé que le thème du mois serait les chiens, je me suis pris la tête à deux mains puis j'ai roulé des yeux tellement loin que j'ai vu ma nuque par derrière. Les chiens? Mais ils sont tellement caves! Les plus bêtes des animaux, les crétins de la création, la preuve, ils font confiance à l'humain, ça devrait tout de suite les disqualifier comme espèce intelligente. Ils sont niaiseux. Tu leur garoches un bâton, ils le ramènent. N'importe quel autre animal te regarderait avec une face de « what the fuck ». Les chiens, aucun amour-propre, aucune estime de soi, puis l'ego d'une éponge de mer, fait que il te ramène le bâton en souhaitant juste une chose, que tu le relances. Fais semblant de le lancer, ils vont courir comme des épais, en cherchant partout, pendant que tu te fous de leur gueule dans des vidéos TikTok. Après, ils vont revenir vers toi sans aucune malice, tout contents d'être heureux, la langue au vent puis la graine à l'air. Cerveau de raisin sec, qui court après sa queue, dévore tes meubles, laisse du poil partout, gruge tes souliers, pète, rote, salive, grogne, jappe, puis des fois, il peut faire tout ça dans le même 30 secondes. Peut même pas aller pisser tout seul. Puis faut ramasser ses crottes avant qu'il ait l'idée de les manger. Puis la bouffe. Remplit le bol d'un chien, il va le vider jusqu'à en vomir puis tout remanger en pensant que c'est du dessert. Ça coûte cher. Ça pue. Bref, tous les chiens sont caves puis je les déteste. Sauf, évidemment, le mien. C'est ça l'affaire. Suffit que t'en aies un de correct puis ça change tout. Bon, je dis correct, mais en même temps, il fait tout ce que je reproche au chien. Mais comme c'est mon chien, c'est pas la même affaire. Aussi cave que tous les autres, mais parfait pour moi. Je n'avais jamais eu de chien avant. Je ne comprenais pas ce que ça impliquait. Tout d'un coup, il y en a un qui est arrivé dans ma vie, qui a grandi avec moi, ma blonde, puis mon fils, et on a appris à se connaître. En fait, j'ai autant appris sur les chiens que sur les humains. La patience, l'écoute, l'empathie. J'ai compris que s'ils grugent des pieds de table par ennui, je n'avais qu'à leur lancer un bâton pour qu'ils soient heureux et pensent à autre chose. J'ai compris que si je lui donne à manger, lui fournis un toit et des besoins de base, il n'allait pas me mordre ensuite. Je ne peux pas en dire autant de certains humains. Un chien ne juge pas. Un chien t'accepte pour ce que t'es. Il se fout de ton statut social, de ce que tu portes ou de ce dont t'as l'air. Tout ce qui lui importe, c'est comment tu vas. C'est bien simple, il t'aime plus qu'il ne s'aime lui-même. Oui, il jappe. Mais toi aussi, tu l'as entendu, le drôle de bruit dans la cour la nuit, puis ça te fait quand même du bien que ton chien soit près de toi. Parce que le chien est toujours là quand t'en as besoin. Quand t'es triste, il pose sa grosse truffe frette sur tes genoux en soupirant, puis te regarde avec ses grands yeux d'imbécile heureux l'air de dire « Viens sauter d'un feuille avec moi, tout va bien aller. » Après de longues années passées auprès de nous, notre chien nous a doucement quittés l'automne dernier. Il a fermé ses grands yeux dans nos bras, heureux comme au premier jour, nous laissant dans une grande tristesse, mais aussi une immense joie, avoir connu, et l'envie de dire, comme l'auteur Charles Hugh, « Si je pouvais être la moitié de mon chien, je serais deux fois l'homme que je suis. » C'est pourquoi je suis de tout cœur avec ceux et celles qui tenteront de garder leur animal de compagnie dans leur appartement ce printemps, avec nos sœurs et nos frères dans la rue qui dorment aux côtés de leur animal, et avec tous ces humains qui pensent qu'ils ont le meilleur chien du monde, parce qu'ils ont raison. C'était « Les chiens caves », un texte de Christian Vanasse, paru le 22 avril 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.